18h partout au Niger, 18h au studio Kalangou, le point sur l'actualité nationale en français, c'est maintenant. Bonsoir à tous, voici nos titres. Ouverture ce matin à Bamako du sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Objectif, mettre en place des dispositifs communs pour mieux gérer les zones de frontières. 2 ans après la première offensive des éléments de la secte Boko Haram dans la région de Diffa, nous revenons sur l'impact de ces attaques et la situation sécuritaire actuelle dans la région. Célébration de la 14e journée mondiale de lutte contre l'excision ce 6 février 2017, une pratique qui aurait beaucoup régressé au Niger. Explication tout de suite dans ce journal. La migration comme activité économique importante dans la région d'Agadez, c'est bien de cela qu'il sera question dans la partie magazine de ce soir. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Au micro, Diallo Mariama Kenda, merci de rester à l'écoute. La rencontre des chefs d'État du G5 Sahel a débuté aujourd'hui à Bamako. Les 5 présidents des pays de la région, Niger, Mauritanie, Tchad, Mali et Burkina Faso, prennent part à cette réunion. L'objectif est de mettre en place des dispositifs communs pour mieux gérer les zones de frontières. Hier, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité de ces pays ont tenu la 2e réunion annuelle des ministres en charge de la défense et de la sécurité.
La sécurité dans la bande sahélienne est le sujet principal de cette rencontre des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Un diplomate a indiqué que la réunion permettra de faire une analyse approfondie de la situation sécuritaire dans le Sahel. Les discussions de Bamako vont porter sur la mise en place d'une force mixte composée des forces des 5 pays membres de l'organisation afin de faire face au terrorisme dans le Sahel. Cette force devra renforcer les différentes opérations internationales lancées dans la région, notamment la force Barkhane et la MINUSMA au Mali. À l'issue de cette réunion des chefs d'État, un mémorandum de droit de poursuite au-delà des frontières devrait être aussi élaboré. Avec cette entente, les différentes forces des pays membres pourraient donc intervenir au-delà des frontières. Selon le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, plus on intervient au niveau des frontières, plus on combat mieux le trafic en tout genre. La réunion des dirigeants du G5 Sahel intervient quelques semaines après l'annonce de la création d'une force mixte des forces des pays membres de l'autorité du Lutapo Gourmand, une organisation composée du Mali, du Niger, du Burkina Faso, 3 autres des 5 pays membres du G5 Sahel. Issa Fagawa Sissoko de Bamako pour le studio Kalangou.
Cette réunion du G5 Sahel intervient alors que la bande sahélo-saharienne fait face à de multiples attaques terroristes, dont celle qui a visé le camp de Gao. Pour le président tchadien Idriss Déby, la rencontre de Bamako doit sonner l'alerte et les pays doivent agir face à la montée du terrorisme. Le président tchadien invite donc à l'opérationnalisation d'urgence du processus de Nouakchott afin de renforcer le dispositif sécuritaire dans le Sahel.
Cette multiplication des attaques terroristes nous montre, si besoin en était, l'ampleur de la menace. Cette situation nous met devant notre responsabilité et nous rappelle l'urgence de la lutte. Nous devons nous donner les moyens et les ressources nécessaires pour livrer une guerre sans merci contre ces obscurantistes qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. À cet égard, le renforcement du dispositif de défense et de sécurité du G5 Sahel est éminemment important. Nous devons rendre opérationnel au plus vite le processus de Nouakchott, qui est d'ailleurs en totale adéquation avec l'architecture africaine de paix et de sécurité. J'invite le Conseil des ministres de tutelle, le Comité de défense et de sécurité et le secrétariat permanent du G5 Sahel à créer un cadre adéquat pour le développement et la bonne conduite de ce dispositif.
Voilà 2 ans, jour pour jour, que les éléments de la secte Boko Haram ont mené leur première offensive dans la région de Diffa. Cette situation a eu un impact sur tous les secteurs d'activité. Pour contrecarrer les menaces terroristes, des mesures d'urgence ont été prises et 100 de combattants ont déposé les armes. 2 ans après, quelle est la situation sécuritaire à Diffa? Réponse avec le secrétaire général de la région, Hassan Ardo Ido.
C'est quand même un triste anniversaire. Il y a 2 ans, jour pour jour, l'IFA a enregistré les premières attaques de la secte Boko Haram contre la région et contre notre pays. On a eu des moments assez difficiles, mais puisque Boko Haram n'est pas encore définitivement écarté, donc les menaces vont continuer, mais la situation globale s'améliore. Les populations ont joué un grand rôle, au même titre que les hommes en uniforme, dans la mesure de leurs moyens, par la recherche et la transmission de l'information à l'autorité, par des actions de résistance face à des attaques des individus, mais la population a beaucoup apporté. Et elle a aussi subi les affres des exactions de la secte. Et courageusement, l'État et ses partenaires sur le terrain ont fait dans la mesure de leurs moyens ce qu'ils peuvent pour alléger la souffrance des populations. Et Dieu merci, à l'étape actuelle des choses, l'ensemble des partenaires continuent à œuvrer et on a moins de difficultés sur le terrain. Nous allons poursuivre les activités de sécurisation de tous ces lieux, permettre aux populations de rentrer définitivement chez eux.
L'un des habitants témoigne et estime que le calme règne à Difa.
Aujourd'hui, quand même, si on fait une comparaison par rapport à ce qu'on a vécu et ce que nous sommes aujourd'hui, vraiment, nous disons que le calme est revenu. Même si par ailleurs, économiquement, la région a perdu, démographiquement, parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont perdu leur vie. Vraiment, maintenant, l'espoir que nous fondons, c'est de continuer quand même à garder ce climat d'accalmie-là pour permettre à nos pauvres paysans surtout de retourner à la terre parce que c'est leur seule source de subsistance. On voit actuellement qu'il y a des poches où les gens ne pratiquent pas l'agriculture. Il y a des endroits où même l'école n'est pas encore fonctionnelle. Nous demandons aussi à la population de collaborer pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'alléger leurs tâches, c'est-à-dire de dénoncer tout cas suspect, de permettre en un mot à nos forces de défense et de sécurité quand même d'avoir toutes les informations nécessaires pour que la calme revienne.
Un propos recueilli par Adam Baboukarna. Aujourd'hui, les étudiants de l'université Abdoumou Mouni de Niamey renouvellent le comité exécutif de l'UNUN, leur structure syndicale. 4 listes sont dans la course et les pensionnaires du campus universitaire choisiront l'une d'entre elles. Tarnan Foude Ahmed s'est rendu à l'université. Écoutons son reportage.
Les militants de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNUN, se dirigent vers les différents bureaux de vote pour élire un nouveau comité exécutif, l'instance décisionnelle qui se prononce sur toutes les questions académiques et sociales de l'étudiant régulièrement inscrit. Le processus électoral se passe dans le calme, comme témoigne ici le vice-président de la table centrale des élections, organe en charge de ces élections.
Les élections se passent très bien. On a débuté aux environs de 8h, 8h20. Tout se passe bien dans la calme, la sérénité et dans la paix. Cette année, nous avons environ 22 000 électeurs qui sont appelés aux urnes.
Devant un bureau de vote à la faculté des sciences juridiques et politiques, Soule Gaya Ibrahim, avec sa carte d'étudiant, qui a en même temps la carte d'électeur en main, est venu voter. Il nous livre ses motivations.
La majorité de ceux, c'est de ceux défaillants, c'est de ceux incapables. Et nous, notre lutte, c'est de consacrer un CE qui sera en mesure de défendre les intérêts matériels et moraux de la grande base de l'ONU. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, la vie académique est dénaturée à l'université Abdoumou Mouni et la vie sociale, on ne parle même pas.
Al-Mustapha Bakimba Touré participe à ces élections en tant que candidat. Il explique les raisons qui l'ont poussé à présenter sa candidature et pour occuper une responsabilité dans le nouveau comité exécutif de l'UNUN.
Étant observateur, nous ne pouvons pas changer les choses. Il nous faudra être acteur dans l'histoire pour pouvoir apporter un changement, pouvoir montrer aux étudiants que nous sommes capables de prendre des décisions qui peuvent arranger notre cadre organisationnel et qui peuvent redorer les lettres de noblesse de notre cadre organisationnel. Et nous ne sommes pas de ces syndicalistes qui sont à la solde des autorités politiques, mais nous sommes des syndicalistes défenseurs de valeurs syndicales.
Les bureaux de vote fermeront à 18h dans toutes les facultés et les résultats provisoires globaux seront connus dans la nuit avant d'être définitifs dans les prochaines 72 heures. Rendez-vous donc dans nos prochaines éditions.
Célébration ce jour de la 14e journée mondiale de lutte contre l'excision. Selon Jatta Ouassa, la secrétaire exécutive adjointe de CONIPRACT, comité nigérienne pour les pratiques traditionnelles ayant effet sur les femmes et les enfants, cette pratique ancestrale néfaste connaît une régression au Niger. On parlerait d'une diminution de 3% de 1998 à 2012. Elle affirme que les communautés les plus touchées sont les peuls et les gourmandiers avec 12% du taux de prévalence. Jatta Ouassa revient sur les méthodes utilisées pour combattre l'excision et les conséquences de la pratique.
Actuellement, nous sommes en train de faire une approche holistique sur les MJF. L'approche holistique, c'est une éducation à base communautaire, c'est-à-dire ce sont les communautés qu'on cible. Et on a des FACOM, des formateurs communautaires, des facilitateurs entre les communautés et nous-mêmes. Il faut se dire que la pratique de l'excision, c'est une pratique ancestrale. Donc les gens, ils pensent que c'est un héritage qu'il faut préserver. Mais de l'autre côté, ils voient les conséquences. Des fistules, des filles qui sont mariées tôt ou qui ont été excisées, qui font des fistules. Il y a des filles qui sont excisées et qui se retrouvent à la maternité parce qu'elles ont des accolements, elles ont des problèmes au niveau de l'organe génital. Des mariages qui ne réussissent pas parce que la fille est excisée, les rapports avec le marié est difficile. Des filles qui deviennent malades mentales parce qu'elles ont été excisées.
Jacques Tawassa, secrétaire exécutif adjoint de CONIPRACT, notez dès maintenant que nous débattrons de ce sujet mercredi prochain dans le forum de studio Kalangou du football. À présent, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a pris fin hier au Gabon. C'est le Cameroun qui a remporté la Coupe cette année. Les Lions indomptables du Cameroun ont battu les Pharaons d'Égypte par le score de 2-1 en finale au stade de l'Amitié de Libreville. Quel bilan peut-on tirer de cette compétition? Écoutons à ce propos Mohamed Slimane, président de l'Union des journalistes sportifs du Niger, au micro de Soumana Amadou.
Dans l'ensemble, je suis quand même assez déçu par le niveau de la compétition. Ce n'est pas comme les autres années, on a vu quand même des très très belles équipes, des grandes équipes avec des grands noms, des grands joueurs. Je crois que nous sommes à une période charnière de notre football au niveau africain où franchement, il faut s'interroger. Mais on a vu quand même quelques moments de bon football, notamment la finale. Effectivement, il y a des nations qu'on attendait et qui ont déçu. C'est le cas de l'Algérie qui a été longtemps la première nation africaine. Le Maroc aussi n'a pas dépassé les cas. C'est le cas de la Tunisie également et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Alors, moi, j'ai été surpris par la prestation de la Guinée-Bissau, par exemple. Et le Burkina, particulièrement, et la RDC, ce sont deux pays qui sont quand même offensifs, contrairement à la tendance générale.
Si le MENA du Niger était à la CAN,
on ne s'est pas qualifié pour la CAN, tout simplement parce qu'on n'avait pas notre place là-bas. Si on était là-bas, avec une meilleure préparation, peut-être qu'on pouvait s'en sortir.
La partie magazine de ce journal à présent, dehors du tourisme, la ville d'Agadez vit aussi des activités de la migration. Aujourd'hui, cette activité est arrêtée par les autorités. Un reportage signé Moussa Maman.
La ville d'Agadez, passage incontournable des migrants subsahariens, vit désormais sous une loi qui interdit toute aide à la migration. Une activité pourtant lucrative pour la population, en particulier pour les jeunes. La migration est interdite, certes, mais elle n'a rien d'illégal, explique Mohamed Anako, le président du conseil régional d'Agadez.
Jusqu'à 3 mois, 4 mois, pour nous c'est une activité légale, la migration. C'est de ça, les jeunes ils vivent de cela, il n'y a plus de tourisme depuis un certain temps. Donc, il y a plusieurs acteurs dans cette chaîne d'immigration-là. Et voilà, un bon matin, on nous dit que c'est illégal. C'est vrai, ça n'a pas été facile d'avaler la pilule, mais comme c'est une loi de l'État, nous avons demandé au gouvernement de sensibiliser d'abord la population par rapport à cette loi-là. Nous avons demandé aussi aux partenaires, parce que c'est eux qui ne veulent pas de la migration. Nous, ça ne nous dérange pas, la migration. Ils n'ont qu'à créer les conditions pour que tous ces acteurs-là qui vivent de la migration trouvent des occupations.
En fait, ce sont les jeunes qui sont les plus concernés. 70% d'entre eux pratiquent des activités liées à la migration, selon le président du conseil régional d'Agadez. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes sont dans le désespoir. À l'exemple de Bachir Ama, un des passeurs de migrants.
On va voir ce qu'ils vont faire pour nous. Parce que nous, on n'a pas de travail. Il n'y a personne qui travaille maintenant. Ça, c'est un problème. Quelqu'un qui trouve avant de l'argent, maintenant, il n'y a pas de l'argent. À peu près, il y a 20 personnes qui sont derrière lui ou bien 30 personnes. Ça, c'est des problèmes. C'est un grand problème. Et encore, l'Union européenne, ils ont donné de l'argent. On a entendu. On dit que les travailleurs, on va arrêter. Mais maintenant à Gadez, là, il n'y a aucun travail. Il n'y a rien qui marche. Les jeunes ne travaillent. Nous, on lance un appel vraiment à l'État d'essayer de voir comment ils vont aider les gens.
Plusieurs personnes croupissent aujourd'hui en prison à raison des nouvelles dispositions de la loi. Ibrahim Manzo Diallo, président des Sentinelles Citoyennes Garkoua, un regroupement de la société civile, dénonce cet état des faits.
Mais on ignore que ces migrants, ils quittent les frontières du Nigeria, les frontières du Bénin, de tous côtés pour venir à Agadez. Non, ils passent tout le territoire du Niger, la moitié du territoire du Niger pour venir à Agadez. C'est seulement aux portes d'Agadez qu'on leur applique la loi 036/2015. Voilà, c'est ça qui révolte à Agadez. Et il n'y a pas ce qui fait mal aujourd'hui à Agadez que le fait d'emprisonner une centaine de jeunes, d'immobiliser plusieurs centaines de leurs véhicules et les oublier carrément dans les nuits froides des geôles d'Agadez. Pourquoi
les jeunes de la région mettent désormais leurs espoirs dans les conventions de projets en faveur des jeunes signées avec plusieurs bailleurs de fonds. Moussa Maman, Agadez, Studio Kalangou.
C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place au forum du Studio Kalangou présenté par la Sainte Cousine Mahamadou.